Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà le livre du prophète Ésaïe. Une première page, un seul verset, et nous nous reporterons ensuite dans l'évangile de Jean. Alors, on commence par le livre du prophète Ésaïe au chapitre 26. Et au verset 12, tout simplement, on va lire simplement cette petite phrase qui dit tout simplement « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Moi j'aime bien cette partie de cette phrase « Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Et nous ne le savons pas. Et encore peut-être plus préjudiciable, c'est que nous en apercevons pas. Peut-être après. Et nous allons lire en complémentarité, tout simplement, dans l'évangile de Jean, et nous allons voir qu'il y a des choses que le Seigneur fait pour nous sans que nous en soyons conscients, sans que nous nous en apercevions, mais c'est pourtant le miracle de Dieu, l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà, on peut dire ça de cette manière, hein, si vous voulez. Et où il est question finalement, de Jésus, de ses disciples après sa résurrection, où cet entretien que nous avons, cette expérience que nous avons, ce rapport qui nous est donné à travers le chapitre 21, et le verset 1er, où c'est un rappel de souvenir. Et si nous pouvions intituler tout simplement notre méditation cet après-midi, souvenir d'avant pour un nouvel avenir. On pourrait dire ça comme ça, ou souvenir d'avant pour un après. Alors, on va considérer la chose par le détail dans la méditation. Alors, je lis. Jean, évangile de Jean, chapitre 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils leur répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompait point. Jésus leur dit « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors voilà, c'est une belle histoire, une belle conclusion à l'évangile de Jean. Et c'est vrai que dans les faits et gestes, dans tout ce qui nous est rapporté à travers ce récit, eh bien, c'est véritablement une approche que Jésus veut donner à ses disciples pour leur parler à travers des souvenirs, à travers une histoire, à travers leur histoire, l'histoire de ses disciples avec Jésus et lui avec, eh bien, les hommes en quelque sorte, enfin, ceux qui ont été les privilégiés de ce temps-là, ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont partagé la vie de Christ, ses miracles, ses enseignements et tout cela. Et vous avez remarqué, ça fait la troisième fois que Jésus se montre. La première, c'est quand il est ressuscité. La deuxième, avec l'histoire qui précède un petit peu celle de Thomas, hein, dont l'histoire nous est rapportée justement au chapitre précédent. Et puis cette fois-ci. Alors, c'est vraiment intéressant de prendre en considération ce que Jésus voulait leur dire à travers tout cela, à travers cette rencontre qui est au départ très mystérieuse, hein, il faut bien le reconnaître. Mais je reprends un peu le texte. Il nous est dit donc que Jésus se montra encore aux disciples dans un lieu familier pour la plupart d'entre eux, c'était la mer de Tibériade. Là, c'est aussi un souvenir. Il s'en était passé des choses depuis 3 ans. Il s'en était passé, ils en avaient vu des choses. Ils avaient tout laissé pour certains d'entre eux. Ils avaient suivi Jésus. Et puis, il y a eu ce drame qui les a poussés au désespoir, ou presque. C'est quand Jésus a été crucifié. Ça, ils ne s'attendaient pas à une fin pareille. Mais ils ont été complètement bouleversés quand ils ont pu, comme Thomas, eh bien, voir qu'il était ressuscité. Alors, tout ça, c'était un monde qui était fini, qui était passé, hein. Comme nous-mêmes, eh bien, dans notre vie, tous les jours, nous tournons une nouvelle page, hein, ça c'est sûr. Et dans ce contexte-là, Jésus voulait leur faire passer un message. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 3 ans, dans telles circonstances, ceci et cela. Et vous avez remarqué avec moi, il nous a dit, le verbe rapporté 2 fois, « montrer ». Il se montra. Et voici de quelle manière il se montra, nous dit le rapport que nous fait Jean. Il y a bien des gens qui voudraient, certainement, il y a bien des hommes qui voudraient que Dieu se montre. Voilà. Hein, pour dire, eh bien maintenant, je sais que je peux avoir confiance, je sais en qui je crois. Et ça a toujours été un petit peu la démangeaison des hommes dans bien dans leur situation, ou même à travers l'histoire. Que Dieu se montre. Voilà, que Dieu se montre seulement. Il y a un cantique de la réforme qui est, naturellement, qui nous en parle. Et surtout dans les moments de détresse, dans les moments de doute, dans les moments où nous sommes dans la perplexité, eh bien que Dieu se montre, et là nous serons rassurés, nous serons tranquillisés. Vous savez ce que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe, qu'il nous est dit que c'est Dieu qui nous donne la paix. Hein, on l'a lu, hein. Et tu nous donnes la paix. Oui. Et la paix, c'est justement de pouvoir être rassuré, d'avoir cette foi qui ne vacille point, qui ne change point. Mais bon, ça fait partie de la nature humaine, hein, c'est fluctuant tout cela. Alors, il nous a même précisé, mais voilà de quelle manière. Alors Jésus, on pourrait peut-être reporter les choses, mais de quelle manière il a parlé hier et de quelle manière il peut parler encore aujourd'hui. Diverses façons. Hein. Et là, nous allons mettre, et j'insiste sur ce que nous allons faire, c'est Jésus va se montrer d'une manière où il va tout doucement, sans se faire connaître, sans se découvrir, comme les disciples d'Emmaüs, les amener peu à peu à réaliser, eh bien, qu'il est véritablement le Christ ressuscité. Jésus est ressuscité, on l'a lu. Il y a eu des doutes. Certains l'ont adoré. D'autres, comme Thomas, ont dit, eh bien moi, si je ne vois, eh bien je ne croirai pas. Et puis là, il semblerait qu'ils se sont tous retrouvés, là, près de la mer de Tibériade. Et il y a encore quelque chose qui, finalement, obscurcit leur vue. Ils ne savent pas, on l'a vu, hein, quelle hésitation. Hein. Il y en a un qui dit à l'autre, mais c'est le Seigneur. Et puis Pierre, il est convaincu. Et puis à la fin, regardez ce qu'il nous est dit. Il nous est simplement rappelé que, dans le dernier texte, il nous est simplement dit que aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant qu'est-ce qu'il était. Vous savez, c'est ce cheminement de l'âme humaine. Voilà, c'est toute une imprécision, tout cela. Et c'est quelquefois dramatique, hein, cette situation. On aimerait que Dieu descende du ciel et qu'il se montre comme ça, d'une manière transcendante, d'une manière puissante, en disant « Mais moi j'ai vu le Seigneur, hein, je sais maintenant. » Ouais. Mais quelquefois on le laisse sur le rivage, le Seigneur, parce que vous l'avez lu avec moi. Il est là, il n'est pas loin de nous. Nous sommes en train de ramer dans cette vie, mais il est sur le rivage. Il faut peut-être que nous fassions autre chose, que nous voyons autre chose, que nous considérions autre chose. Alors il s'est montré, et voilà de la manière dont il s'est montré. C'est la suite du récit. Hein. Il nous est rappelé les disciples, il y en a 6 sur 12 qui sont là. Il y en a un qui est parti, hein, puisqu'il s'est suicidé, c'était tout simplement eh bien, Judas. Mais il nous est donné les noms, il y a Pierre, Simon naturellement, il y a Thomas. Thomas, là il est là, hein. Celui qui avait dit précédemment, là dans le chapitre « Tu es mon Seigneur et mon Dieu », alors là il était convaincu, hein. C'était une expérience cuisante pour lui, mais là, il est là, et il est nommé tout de suite après Pierre. Et puis il y en a un autre qui avait aussi des doutes dans le temps, au moment où il s'est converti, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Vous connaissez l'histoire, hein, on l'a vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans une méditation. Il s'appelle Nathanaël, on le retrouvera sous le nom de Barthélemy plus souvent dans les généalogies des disciples, enfin dans la liste des disciples. Il est de Cana, de Galilée, et puis il y a les fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques. Et puis il y en a 2 autres inconnus, mais enfin bon, on les connaît, mais les noms ne sont pas cités. Ça en fait 6, hein. Et ils étaient ensemble, oui, Thomas était là, lui qui n'était pas là la première fois, mais qui s'est quand même, on peut dire, mordu les doigts parce que... Il a raté quelque chose, il a fallu que les autres disciples me disent « Mais nous l'avons vu, nous savons qu'il est ressuscité, ils sont tous ensemble. » Vous savez ce fameux Thomas qui était le disciple désespéré qui avait pris la fuite. Ben oui, mais la fuite, c'est pas une solution. Si vous voulez avoir des convictions, il faut prendre la fuite. Il faut affronter le problème, et peut-être notre grand problème et le problème des hommes, c'est le doute. Eh bien le doute, ça peut trouver une solution, on peut trouver une solution dans le doute, hein. Et heureusement, cette fois-ci, il était là. Et puis voilà qu'il y a Pierre, à un moment donné, on reprend le texte. Simon Pierre, qui est toujours l'initiateur de toutes les aventures, hein, vous avez remarqué, avant, c'était toujours lui qui posait les questions pour les autres, ceux qui n'osaient pas poser de questions à Jésus, qui était toujours là pour dire, eh bien tu sais, moi on ira jusqu'au bout du monde avec toi, il n'y a pas de problème, c'est encore Pierre qui sortira son épée pour couper l'oreille d'un pauvre gars qui se trouvait là, et que Jésus a guéri immédiatement, vous savez l'histoire de Malchus, et c'est toujours lui, le premier qui dit « Mais je ne te renierai pas », et c'était le premier à le renier. Alors, Pierre, c'est quand même un personnage. Hein. Mais il se trouve là, et puis il va encore prendre une initiative, donc son caractère est encore là. Hein. Mais il y a des bonnes choses chez Pierre. Et il va dire tout simplement cette parole « Je vais pêcher ». Ah, je vais pêcher. Alors, pêcher au sens où il revient aussi dans ses souvenirs. Parce que on sait très bien que Pierre... était aussi un pêcheur, mais pêcheur à la ligne, pêcheur de poissons. Et quand Jésus l'a rencontré pour la première fois, il l'a trouvé dans sa barque. Il l'a trouvé fatigué et épuisé après une nuit de labeur où il n'avait rien pris. Ça, c'est Pierre. Et nous savons très bien de par l'histoire que Jésus lui a demandé la permission d'emprunter son embarcation, d'aller en pleine eau, d'aller un petit peu plus loin. Et ainsi, ça nous a laissé un beau discours dont nous ne connaissons pas le contenu, mais qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Mais quelle histoire ! Mais quelle histoire ! Parce que peut-être que notre Pierre, qui est habitué aux grandes choses, lui avait limité. Jésus lui avait dit « tu jettes les filets ». Lui, il avait dit « bon, on va pas prendre de risque, on va jeter un filet, on verra bien ce qui va se passer ». Et de fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus avec une pêche miraculeuse. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. Mais ça a été quand même déterminant pour Pierre pour dire « Mais je suis en présence d'un saint, je suis en présence du Fils de Dieu, je suis en présence de mon Sauveur. » Et là, Pierre va lui dire tout simplement cette parole que nous connaissons bien « Désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu vas devenir un pêcheur d'hommes. » Et là, nous voyons qu'après tout ce périple, après toute cette histoire qui a duré 3 ans de communion et de promiscuité avec Jésus, on entend dire « je vais pêcher ». Serait-il encore au désespoir pour retourner en arrière? Il avait certainement vu des choses, il avait vu des foules s'approcher de Jésus. Il avait certainement vu des gens émerveillés et touchés profondément, des gens se convertir à Jésus-Christ. Mais il semblerait que le spectacle de la crucifixion, il a vu ça de loin, hein, n'était pas le plus près lui, hein, de son reniement, mais de ce bouleversement que l'on appelle la résurrection, il ne sait plus tellement où il en est rendu. Il se dit, mais maintenant, voilà, il était mort, il est vivant, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je me retrouve au chômage. Et là, il a cette pensée de dire, eh bien, je vais retourner à la pêche. Ah oui, les anciennes habitudes, le réflexe d'aller en arrière, le réflexe de retourner à nos souvenirs, ce que nous savons faire, ce que nous avons toujours fait. Et quand il n'y a plus de perspective, pourtant il y avait une perspective, c'est pour ça que les choses s'accordent mal. Parce que la plus belle perspective, c'est que son sauveur à Pierre, celui qui l'avait renié, il était vivant. Et quand Jésus est vivant, bah, toutes les perspectives sont ouvertes. Il aurait dit ça après la crucifixion, il aurait pu dire, mais maintenant je vais pécher parce qu'il est mort. Mais vous comprenez le décalage qu'il peut y avoir? Et vous savez, dans notre monde, c'est un peu ce qui se passe. Les gens croient peut-être, et on va le célébrer à Pâques, là, d'ici quelques jours, quelques semaines, les gens croient finalement que ça, assurément, Christ est mort. Ils ont des effigies partout dans leur maison et tout ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a encore quelque chose de plus grand et de plus beau et de plus fort qui ouvre des perspectives extraordinaires, c'est la résurrection. Qu'il ait dit ça au moment de la crucifixion, je vais à la pêche, je retourne parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais après, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle mission qui s'ouvre pour lui, pour Pierre, pour les autres et pour nous d'ailleurs. Parce que nous mettons en évidence que Jésus n'est pas mort, qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. Et ça, ça change tout. C'est bien, en quelque sorte, nous pourrions dire, la plus grande détresse que nous croyons dans, que nous voyons, que nous constatons dans un christianisme qui s'est arrêté à la croix. Jésus est ressuscité. Alors si Jésus est ressuscité, tout est permis. Tout est possible à ce moment-là. Et c'est pas un Christ qui seulement, eh bien, a vécu sur la terre, mais c'est un Christ maintenant qui a vécu sur la terre, mais qui est au ciel. Et donc, du ciel, nous pouvons tout attendre. Il est là-haut. Et il revient bientôt, d'ailleurs, nous dit la parole de Dieu. Donc, avait-il oublié sa mission? Pêcheur d'hommes, quel retour et quelle question! Nous allons un peu plus loin. Alors, les disciples lui ont dit, parce que c'était aussi des collaborateurs et des pêcheurs, pour la plupart d'entre eux, ils ont dit, mais nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Oui, c'est un entraîneur, Pierre. Mais c'est vrai que quand un entraîneur est bon, quand il s'est motivé, il peut faire des choses extraordinaires. Mais là, c'était qu'il entraînait tout le monde, et bien finalement à retourner d'où ils étaient venus, en quelque sorte. Alors, finalement, condition d'origine. Et puis voilà, il y a cette petite parole qui nous est donnée à la suite de cette phrase. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Souvenir. Eh oui. Souvenir encore. Souvenir pour Thomas. Souvenir pour les uns et pour les autres. Souvenir également pour Pierre. Qu'est-ce qui s'était passé au début? Qu'est-ce qui s'était passé à l'origine de l'appel de Pierre? C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont sortis, ils ont travaillé, ils lavaient leur filet avec peut-être la mort dans l'âme de n'avoir rien pris, donc pas de revenus, rien du tout. Voilà, un pêcheur, il vit avec sa pêche. Et voilà qu'il rencontre Jésus à ce moment-là. On a dit ce que Jésus lui a dit. Il a bien voulu faire confiance à Jésus, lui prêter sa barque. Jésus a parlé. Pierre a entendu ce qui était dit à ce moment-là. Et probablement, dans un mouvement de reconnaissance, Jésus lui a dit, mais maintenant, va en pleine eau et tu vas jeter les filets et tu vas voir ce qu'il va y avoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a obéi. Et quand, dans ce premier épisode, quand ils ont retiré le filet, il nous a dit qu'il était prêt à craquer tellement il y avait de poissons. Ça a complètement bouleversé Pierre. C'est pour ça qu'il s'est donné. Et il n'a pas attendu des jours et des jours. Jésus lui a dit, viens et suis-moi maintenant. Tu seras maintenant, eh bien là, un disciple. Tu vas devenir un apôtre. Ça, c'était encore très éloigné, naturellement. Il y avait encore tellement de chemin à parcourir. Alors, il ne prirent rien, c'était encore un vieux souvenir. Peut-être qu'il se disait, si Jésus est encore avec nous, alors on sait bien qu'il est mort pour moi, il est mort pour nous, mais il est ressuscité, mais où est-il? Où est-il? S'il avait été là, peut-être qu'il aurait fait la même chose que ce qu'il avait fait il y a 3 ans auparavant. Vous savez, quelquefois nous sommes un peu bouleversés par des regrets et des remords en disant, mais, Ben, c'est exactement la même chose pour Marthe et Marie. Si, Seigneur, tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Il y en a tant de questions comme ça dans notre vie. Ah, si, Seigneur, tu étais là. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que, sans que nous le sachions, ou sans que nous en ayons la connaissance, c'est que le Seigneur est là. Et ça, nous l'oublions. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que le Seigneur, quelquefois, nous dit des choses. Il nous fait remonter à notre conscience, ou dans notre cœur, à notre pensée, dans nos sentiments. Il nous rappelle des souvenirs. Comment j'ai fait avec toi dans telle circonstance? Tu sais, il y a 20 ans, 30 ans, quand tu étais pris dans tel problème, qu'est-ce que j'ai fait? Faut pas les oublier aussi, ces souvenirs-là. Et le Seigneur nous parle en disant, bien voilà, si tu as fait ça et moi je réagis comme ça, si tu as fait ça il y a 15 ans, 20 ans, ou il y a un mois, dans une situation qui était celle-ci, et qu'aujourd'hui je me retrouve dans une autre situation, mais pourquoi tu ne ferais pas la même chose? Le souvenir vient au secours quelquefois de notre foi. Alors, ils n'ont rien pris. Ils étaient sortis pour passer le temps. Ils étaient désœuvrés à ce moment-là. Probablement. Je vais pêcher. C'était peut-être pour tuer le temps, mais enfin, faut pas oublier que c'est le temps qui nous tue, c'est pas nous qui le tuons. Et toujours est-il qu'ils ont rien pris, tout simplement. Quand ils sont revenus le matin, ils se sont dit, mais les filets sont vides. C'est désespérant quand on fait ce que l'on peut et puis qu'il n'y a rien au bout, hein. Il n'y a rien dedans. Et voilà que le matin, au petit matin, quand il est venu ce matin-là, Jésus se trouva sur le rivage. Jésus était là, une silhouette, peut-être dans la brume, dans les vapeurs de la nuit qui commençaient à s'échapper et qui disparaissaient avec le soleil levant. Je ne sais pas, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Il nous est bien dit qu'il se trouva sur le rivage. Tout à l'heure, nous avons commencé, Jésus se montra. Voici de quelle manière il se montra. Et là, il s'est trouvé. Il faut des yeux pour voir. Il faut des yeux, c'est vrai. Mais il nous faut un cœur qui ait cette perception que là où nous croyons qu'il n'y a rien, eh bien, il peut y avoir quelque chose. C'est la marche de la foi de tous ces hommes. Moi, je pense à Jaïrus, je pense à la Cananéenne, je pense au centenier qui avait des yeux, hein, ça c'est sûr, ils étaient comme le commun des mortels, mais qui avait quelque chose de plus, qui avait des yeux dans le cœur, des yeux au fond du cœur, ils arrivaient à percevoir. Les disciples d'Emmaüs qui ont marché pendant je ne sais pas combien de temps avec celui qui les accompagnait, celui qui les entretenait, celui qui apportait finalement, eh bien là, qui leur parlait de la Bible et qui leur parlait de leur histoire. Il nous est dit que leurs yeux étaient empêchés de le voir. C'est curieux. C'est curieux. Quelquefois, nous avons affaire à des amis qui nous rejoignent. Et pour nous, c'est tellement évident. Et on se dit, mais comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Parce que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Et là, même s'il y avait un petit brouillard matinal, il nous est dit que les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Vous vous rendez compte? C'est quand même curieux quand même. Ils ont vécu pendant 3 ans... Et ils n'ont même pas reconnu Jésus. Nous, si on vit avec des gens pendant un certain temps, même il suffit de vivre avec une 8aine de jours avec quelqu'un, de travailler, de partager pas mal de choses. Bah, écoutez, si je le revois 15 jours après, je vais le reconnaître, non? Ou alors je suis complètement amnésique, il faut que je me pose des questions. Je me pose des questions. Mais 3 ans, c'est quand même pas une petite affaire. Et pas 3 ans de choses de banalité. 3 ans avec des miracles, avec des prodiges, avec des choses extraordinaires. Avec un message formidable, ça marque, c'est pas possible, hein, c'est indélébile dans la conscience. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Oh, il y en a beaucoup, hein, peut-être des hommes qui laissent Jésus sur le rivage sans le reconnaître. Il ne s'arrête pas. Voilà, il est là, mais est-ce que c'est vraiment lui? Puis, voilà, hein, on a cette confusion au fond de nous-mêmes, sans le reconnaître. Jésus leur dit... Enfant, c'est un terme très affectueux, hein. Jésus l'a dit. Et c'est bien marqué par Jean, hein. Il y a quelque chose de très, très sentimental quelque part. N'avez-vous rien à manger? Là, c'est aussi un souvenir. Combien Jésus a fait de miracles pour rappeler qu'il était tout puissant. Vous vous souvenez de cette fois où à plusieurs reprises, ou en tous les cas, il y a plusieurs rapports sur le même événement, l'histoire de la multiplication des pains. Oui, les disciples un jour sont venus vers Jésus et lui ont dit, après un long discours qu'il faisait à des milliers et des milliers de personnes, ils étaient au moins 5000. Et où les disciples sont venus en disant maintenant le soir tombe, le soir arrive, et il faut renvoyer toute cette foule afin que finalement, eh bien, elle ne tombe pas d'inanition. Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Et néanmoins, Jésus, avec peu, a fait beaucoup. 5 pains, 3 poissons, et voilà qu'il y a 5000 personnes qui vont manger. Ça s'oublie pas quand même, ça aussi. C'était des souvenirs. Et Jésus va leur poser la question, certainement avec une intention, mais n'avez-vous rien à manger? Pour leur dire, mais vous m'avez pas reconnu? Vous n'avez pas vu que c'est moi qui ai fait ceci et cela? Alors c'est vrai pour le pain, et c'est vrai pour les poissons, mais c'est vrai pour le vin à Cana. Et puis c'est vrai dans d'autres circonstances, où Jésus a donné, et il a donné avec profusion. Ah oui, Jésus voulait leur dire, mais vous savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu aussi. Parce que je peux faire les deux. Je sais faire les deux. Vous vous souvenez pas, finalement, qu'il y a une nourriture qui est supérieure à celle de toutes les, qui nous ramène à toutes les contingences de notre vie, de notre existence? Oui. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que ça, c'était une mission des apôtres. Et pas une mission de multiplier les pains et les poissons à l'infini, mais de donner à manger spirituellement au peuple de Dieu. C'est ce qu'ils vont devenir. Souvenir d'avant pour un avenir nouveau. Parce que Pierre, c'est ce qui va lui arriver. Il va devenir celui qui va nourrir. Les autres aussi. Jean, avec son évangile. Également Jacques. Et puis, les uns et les autres vont être finalement de ceux qui vont pourvoir aux besoins spirituels des hommes. Ils lui répondirent non. Non, non, on ne peut rien. Pourtant, Jésus le dira dans l'évangile, il dira, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a raison, Jésus. Mais je reviens sur ce que nous avons dit. Tu nous donnes la paix, car tout ce que nous le faisons, c'est pas toi. C'est pas nous qui le faisons, mais c'est toi qui le fais pour nous. Ça, c'était aussi quelque chose qui devait les sensibiliser dans le souvenir de tout ce qui s'était passé pour dire, mais oui, Seigneur, on n'a rien à manger, mais y aurait-il peut-être une possibilité? Veux-tu nous montrer encore peut-être? Mais ils ne l'avaient pas reconnu, ils ne pouvaient pas aller plus loin, naturellement. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Vous avez vu comment c'est précis? Parce que entre une petite barque, enfin, voilà, quand même, une embarcation, que ça soit à droite ou à gauche, en principe, les poissons sont de tous les côtés, hein. Mais il y a peut-être un sens derrière tout ça. Jetez du côté droit de la barque, et Jésus va leur dire simplement, mais vous trouverez. Souvenir. Qu'est-ce qui s'était passé? Là, ils avaient intérêt peut-être de bien comprendre l'appel qui leur était adressé et le commandement qui leur était adressé. Oui. Alors, je pense qu'ils l'ont vraiment jeté du côté droit. Et quand ils ont remonté, eh bien, ils ont trouvé. Ils le jetèrent donc, car ils n'avaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Là, le souvenir commence à porter ses fruits. On va le voir par la suite. Tiens! Ça nous rappelle quelque chose, ça, hein? Celui qui nous donne ce commandement, celui qui nous donne avec précision ce qu'il faut faire, ne serait-ce pas? Grande question, interrogation. Le Seigneur nous parle avec nos souvenirs, ou les souvenirs de notre vie, de ce que le Seigneur peut-être a fait d'une manière tellement invisible, avec douceur, sans qu'il y ait quelque chose de transcendant, mais il a marqué notre vie. Et je suis sûr que quelque part dans certaines de nos existences, il y a des choses où le Seigneur, bien avant que nous le connaissions, que nous le reconnaissions, qu'il se montre à nous, que nous le trouvions, il avait déjà jalonné notre vie de certaines choses. Et aujourd'hui, on s'en souvient. Il y a certaines expériences dans mon enfance, je me dis, mais Dieu était déjà là. Dans l'approche de la conversion, après j'ai compris, je peux dire, mais Dieu était déjà là. Dieu était déjà à faire ceci, à faire cela. Souvenir. Vous savez que notre vie est beaucoup plus impliquée qu'on ne le pense. Et Dieu est beaucoup plus impliqué dans notre existence, même avant que nous le connaissions, que nous pouvons peut-être finalement nous l'imaginer. Alors, rappelez-vous, jetez le filet et vous trouverez. Et ils l'ont fait et ils ne pouvaient plus ramener tellement que c'était, eh bien là, pourvu en poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Vous avez une petite idée de ce qu'est celui qui dit le disciple que Jésus aimait? C'est Jean. Par discrétion, c'est lui qui écrit ce récit, et il ne veut pas se nommer lui-même. C'est un homme humble, Jean.
Oui, mis à part quelquefois quelques petits écarts quand il a demandé le feu du ciel qui descende sur la tête des Samaritains. Enfin, bon, on va l'oublier, on va pas le ramener ce soir, ce mauvais souvenir.
Mais toujours est-il qu'il reste très en dehors et très en recul. Il ne veut pas se dévoiler, en quelque sorte. Alors, il nous est simplement dit qu'il s'est adressé, il lui a dit trois mots. C'est le Seigneur. S'il y en avait un qui avait compris, eh ben c'était lui. Vous savez pourquoi Jean a compris tout de suite? Que les souvenirs ont porté leurs fruits parce que c'est l'intuition de l'amour.
Oui,
Jean, c'était un grand sensible qui lui a apporté quelquefois peut-être des ennuis, mais c'est un grand sensible. Il va dire, mais c'est le Seigneur, tout simplement. Lui va le reconnaître le premier. Et il va être à l'initiative du réveil ou de l'ouverture de la conscience et des yeux des autres, en quelque sorte. Alors le disciple que Jésus aimait, a parlé à Pierre, et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, vous allez voir, c'est assez particulier, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. En principe, quand on va dans le bain, je l'ai déjà dit, on se déshabille. Mais lui, il s'habille pour aller dans l'eau. Peut-être avait-il la peur d'attraper froid. Mais quand on est dans l'eau, on a froid, de toute façon. Hein? Surtout au petit matin. Hein? C'est curieux tout ça. Hein? Alors, il a fait finalement les choses un petit peu à l'envers. Et il s'est jeté à l'eau. Moi, j'aime bien, je traduis. Hein? Il s'est jeté à l'eau. Oh, quelle témérité, notre Pierre. Souvenir. Quand on sait qu'un jour, en pleine tempête, hein, il voit et ses compagnons avec lui dans un ouragan terrible où ils ont pensé mourir, ils ont vu une silhouette qui s'approchait, c'était Jésus qui venait vers eux. Et puis à un moment donné, il va dire à Jésus, si c'est toi Seigneur, eh bien ordonne que je marche sur les eaux. Fallait le faire. Et il l'a fait. Et ça marchait jusqu'à un moment. Il a dû se souvenir qu'on peut marcher sur les eaux miraculeusement, mais qu'on peut couler pitoyablement, par manque de foi. Ça, il devait s'en souvenir. Et là, il se jette dans la mer. Il ne dit pas qu'il veut marcher sur l'eau. Il va carrément. Il a compris qu'il était un homme. Hein. Il n'était pas un poisson. Il se jette dans l'eau. Et la suite nous est donnée dans le verset 9, tout simplement. Alors les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire à peu près une centaine de mètres. C'était pas très loin. Mais toujours est-il que ça aussi, c'est un souvenir. Quand ils ont demandé aux autres barques, vous savez, dans la première fois, le premier épisode, il nous a dit qu'il y avait plusieurs barques qui sont venues les aider parce que les barques étaient complètement remplies de poissons, tout simplement. C'était véritablement quelque chose de tout à fait particulier, ce qui était dit. Hein. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Un accueil divin et miraculeux. Qui c'est qui avait allumé le feu? Qui c'est qui avait allumé de quoi pouvoir faire cuire les poissons? Oui, il y a des choses qui nous attendent. Hein. Il y a des choses qui sont déjà préparées, mais faut véritablement y croire. Et là, ça a été la surprise, parce que tout aurait pu être fait au dernier moment, d'aller chercher du bois, d'allumer le feu, etc. Mais tout était déjà prêt. C'est pour ça que je parle finalement d'un accueil divin et miraculeux. C'est encore Dieu qui avait préparé les choses. C'est Jésus qui avait préparé les choses. Et si nous voulons aller plus loin, je crois que Dieu a préparé des choses sans que nous le pensions ou sans que finalement nous nous en apercevions. Il nous est dit que pour ceux qui sont fidèles, ceux qui ont la foi, ceux qui font confiance à Dieu, Dieu a traché des chemins tout préparés. Oui. Vous vous rendez compte avec quelle doigté, quelle souplesse le Seigneur les amène, les uns après les autres, à finalement se souvenir de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu avait fait, de ce que Jésus avait fait, et de les amener maintenant en situation réelle. Et dessus, il y avait déjà du poisson et du pain. Tout simplement, Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. Alors, il devait peut-être y en avoir déjà à l'avance, je ne sais pas. Hein, toujours est-il. Un feu, du poisson, du pain, encore des souvenirs d'éveil. Parce que ça, il l'avait vu, hein, on en a parlé tout à l'heure. Simon Pierre monta dans la barque et il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Alors, ça fait partie des mystères que moi, je n'ai pas encore découvert ou élucidé. Pourquoi il fallait jeter le filet du côté droit et pourquoi il y en avait 153 et pas 152 ou 154? C'est un chiffre, c'est symbolique probablement. Hein. Je ne sais pas, je me suis posé la question, j'ai essayé de chercher. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé, mais enfin bon, en tous les cas, ça représente quelque chose qui justifie qu'il y en avait beaucoup, forcément. Et pas des petits, des grands, des gros, certainement. À tel point que, constatation faite, c'est que le filet, peut-être pas des filets neufs, mais des filets usagés, peu importe, mais ils ne se rompaient pas. Vous savez, quand Dieu tient les choses à notre disposition, quand il nous donne, eh bien rien ne se perdra si nous voulons que rien ne se perde. Hein. Si vraiment nous mettons notre foi au niveau nécessaire, et c'est Dieu qui tiendra tout ça, pour que nous puissions en profiter pleinement et complètement et totalement. Et puis voilà que, au verset 12, Jésus leur dit « Venez et mangez ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était lui le Seigneur. Ah, cette parole, elle est intéressante, parce que là aussi, « Venez et mangez ». Ça vous rappelle pas ce que nous faisons tous les dimanches ?« Venez, prenez, venez et mangez ». Oui, ça c'est un autre souvenir. Parce qu'ils étaient là, ces hommes dont nous parlons, ils étaient là un fameux soir, avant Gethsémané et avant Golgotha, et Jésus les avait rassemblés dans la chambre haute, et Jésus avait donné, eh bien, tout le programme de ce qu'il allait lui advenir, de ce qu'il allait faire, et qui serait le mémorial jusque dans l'éternité, à travers le pain et à travers le vin, symboliquement, naturellement, représentant à la fois le pain, son corps, et le vin, son sang, qui était donné en sacrifice. Venez et mangez. C'est pour ça que, quand il dira précédemment, mais vous n'avez rien à manger, non. Mais maintenant, il va y avoir quelque chose de substantiel. Il va y avoir quelque chose à prendre. Et là, nous retournons véritablement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, prophétie d'Ésaïe, et également ce que Jésus va utiliser, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Et ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne de vivre, nous, les chrétiens, parce que nous sommes disciples, c'est de pouvoir faire ce que nous avons fait ce matin. C'est un repas de roi, c'est un repas royal, c'est un repas de vie, c'est un repas pour l'éternité, une bénédiction et un gage de délivrance permanente, en quelque sorte. Venez et mangez. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose certainement dans l'esprit des uns et des autres. Il nous est simplement dit qu'aucun des disciples n'osait lui demander, mais tout le monde savait qui il était, tout simplement. Ouais. Souvenirs encore. Ces souvenirs qui parlent. Ces souvenirs qui nous ramènent à la vérité, qui nous conduisent, et que Dieu permet, tout simplement, dans notre vie, sachant que c'était le Seigneur. Alors, il faut aller plus loin. Faut pas peut-être rester dans ce no man's land où est-ce lui, est-ce pas lui? Nous avons des convictions aujourd'hui. Et je crois qu'après cette expérience où Jésus les a ramenés et leur a parlé à travers des souvenirs de toute leur vie partagée avec lui pendant 3 ans, que là maintenant, eh bien, ils allaient passer dans une autre étape. C'est pour ça que nous pouvons dire que quelque part, il y a cette parole, mais souvenir d'avant, souvenir d'hier, pour un avenir nouveau. Et là, je pense que ça a été vraiment une conviction. Parce qu'à partir du moment, ils vont partager avec Jésus, et que Jésus leur dira, mais attendez, attendez encore quelque chose, quelque temps, ils vont se retrouver dans une chambre haute. Et là, le Seigneur va les investir, va les baptiser du Saint-Esprit, et ils vont devenir, nous pourrions dire, des lions. Ils vont devenir des héros, ils vont devenir des conquérants, et ils vont conquérir le monde entier. Et ça, après, ils savent. Et quand on voit un Pierre qui parlera à la foule et qui dira, mais moi, je vous dis que c'est Jésus que vous avez crucifié, mais qu'en lui, vous pouvez avoir le pardon, la rémission de vos péchés, c'est lui qui vous sauve. Mais quelle force, quelle puissance il va avoir. Il est rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. C'est pas comme nous le voyons dans cette conclusion de ce évangile de Jean, quand il les dit, mais personne n'osait lui demander, sachant que c'était le Seigneur. Après, ils vont le faire avec une hardiesse, avec une force, avec une puissance qui n'ont plus les puissances humaines, mais une puissance du Saint-Esprit. Ça change à ce moment-là. Pierre va aller par tout le monde. Jean va aller aussi. Il va prêcher l'évangile jusqu'à Éphèse. Il finira dans l'île de Patmos des très longues années après. Vous avez un homme qui va se lever, mais qui, lui, n'était pas parmi eux. C'était Paul. Alors, là aussi, hein, quelle assurance et quelle force et quelle certitude ils prêcheront Jésus. Sachant que c'était le Seigneur, on n'ose pas lui demander, mais on sait bien que c'est lui. C'est le cheminement. Commence petit, petit, et puis après, qui va devenir véritablement et qui va faire des géants de la foi. On peut dire des géants de la foi. Alors Jésus s'approcha, prit du pain et leur donna. Il fit de même pour le poisson. Vous savez comment les disciples d'Emmaüs, ont découvert Jésus? Ben, c'était autour d'une table dans une maison, quand il a rompu le pain et qu'il l'a partagé, il nous a dit que là, leurs yeux s'ouvrirent. Vous savez, pour que les yeux des hommes s'ouvrent, d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, il faut reconnaître le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. C'est ça ce qui nous ouvre les yeux. C'est Golgotha, c'est la croix et c'est la résurrection. Autrement, il n'y a rien d'autre. On restera où les hommes seront prisonniers d'une religion, de croyances vagues, aléatoires. On ne sait pas, mais Jésus s'est fait reconnaître dans la dernière Sainte Cène. Après sa résurrection, il s'est fait reconnaître par les disciples d'Emmaüs. Et puis là, dans cette situation, auprès du lac de Tibériade, un petit matin, après une pêche infructueuse, mais une parole de Jésus a rempli les filets, et là ils l'ont reconnu. N'osant peut-être pas dire que c'était lui, mais ils l'ont reconnu. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même pour les poissons. Tout cela inspire, et je dirais même que tout cela respire, de ce geste pascal que nous connaissons par la Sainte Cène. C'est le message de Jésus. Voyez, ses disciples qui ont vécu, qui ont passé du temps avec lui, ne savaient plus tellement où ils en étaient rendus, mais quand viendra le souffle de l'Esprit, à ce moment-là, ils seront convaincus et ils convertiront le monde entier. La bonne parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Avec quelle assurance et quelle force, remplie de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons besoin encore aujourd'hui. Alors que Dieu nous remplisse nos filets, que Dieu éclaire nos yeux et que nous soyons des hommes qui nous levons et qui n'ayons pas peur de dire « C'est Jésus, Jésus est Sauveur, Jésus est Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, il est mort mais il est vivant et ressuscité. » Que Dieu nous bénisse, nous allons simplement remercier le Seigneur à travers sa parole cet après-midi. Oui Seigneur, remplis-nous de ta grâce. Oui, Seigneur, remplis-nous de ta vie. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit lorsque nos yeux sont embrumés, lorsque nos cœurs sont appesantis, lorsque nous sommes pris dans le doute, parce que tous ces événements de ton sacrifice à Golgotha, ces événements dont on nous parle que Jésus est ressuscité, tout ça, ça nous trouble. Nous ne sommes pas toujours, en effet, Seigneur, eh bien là, Père éternel, à te reconnaître. Mais une chose qui est certaine, c'est que, comme tu l'as fait ce matin-là pour les disciples, tu nous dis, voici de quelle manière Jésus se montra. Alors, quand Jésus se montre, et que nous sommes sincères, que véritablement nous sommes animés par cet esprit qui était, en effet, eh bien là, l'inspiration de l'amour, eh bien, non seulement tu te montres, mais nous te trouvons, tu te laisses trouver. Alors nous voulons te rendre grâce. Oui, Seigneur, remplis nos vies. Comme tu as rempli les filets ce jour-là, avec ces 153 poissons, c'est une image. Mais remplis notre vie, remplis notre cœur, remplis notre esprit, remplis notre âme de toi, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de toi dans notre vie. Alors à ce moment-là, tu vas dessiler nos yeux. Tu vas véritablement nous donner de voir avec les yeux du cœur. Et nous pourrons dire au monde entier, nous pourrons dire autour de nous que Christ est réellement ressuscité. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Louange et gloire à toi. Parce que Seigneur, en effet, nous avons une vie, nous avons dans cette vie des souvenirs, et les souvenirs nous ramènent à tous tes bienfaits, à toute ta bonté, à tous les miracles et les grâces que tu nous as données.
pour nous amener à grandir et aller en effet beaucoup plus loin, en sachant, Seigneur, que tu veux faire de nous des hommes d'assurance et des hommes de certitude, donc des hommes de foi, des géants de la foi. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.